Bonsoir. Dépréciation de la monnaie nationale. À Kinshasa, un dollar américain vaut actuellement 1000 francs congolais sur le marché de change, alors qu'il y a 6 mois, il valait 920 francs congolais. De l'avis des experts, cette situation aura des conséquences sur les prix des biens et services sur le marché. Mais dans un communiqué, la Troïka stratégique indique pour sa part que les risques de l'inflation sont minimes puisque tous les indicateurs sont sous contrôle. Comment analyser cette situation? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, nous vous avons annoncé la participation de Jean-Louis Kayembe Wakayembe, directeur général de la Banque Centrale en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires. Malheureusement, il venait de se désister. Nous aurons à sa place Israël Moutala. Bonsoir Israël.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, analyste économique et politique. Merci d'avoir accepté. Nous avons pris pratiquement à pied levé. Michel Soumoué, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes économiste et expert indépendant. Jean Bosco Founa, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du syndicat national des écoles conventionnées catholiques, SINECAT. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le billet vert atteint la barre de 1000 francs congolais pour un dollar à l'achat sur le marché de change. À la vente, c'est-à-dire lorsque le cambiste vous vend la devise, le taux est au-delà de 1000 francs congolais pour un dollar. De l'avis des spécialistes du marché, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, considéré comme monnaie de référence dans les transactions commerciales, aura une incidence directe, sur les prix des biens et services les plus usuels. Toujours selon la même source, le pouvoir d'achat ne sera pas épargné. Donald Lingo, président de l'association des cambistes, décrit la situation de change observée actuellement sur le marché. Il a été joint par Daniel Tambinzoni.
Nous sommes en train de vivre une situation de tendance haussière sur les différentes places des marchés de change. Et les taux de change continuent le chemin de la dépréciation de la monnaie. Et c'est cette tendance-là que nous sommes en train d'observer sur les marchés. Les gens négocient vraiment à 1000 pour les dollars.
Donc si je viens aujourd'hui avec du franc congolais, je veux acheter le dollar, je ne veux pas acheter à ce prix que vous appliquez là, ça c'est le prix à la vente.
Et ça c'est le prix à la vente et le prix à l'achat et ça se négocie au-delà de 1000. C'est ça la tendance des marchés.
Pour sa part, la Troïka stratégique rassure dans son communiqué rendu public mardi dernier. Cette structure indique que les risques de l'inflation sont minimes puisque tous les indicateurs sont sous contrôle. Je le disais tout à l'heure, nous vous avons annoncé la participation de Jean-Louis Kayembe Wakayembe, directeur général de la Banque Centrale, en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires, qui malheureusement s'est désisté. Il y a beaucoup de réactions qui lui étaient adressées, malheureusement, qui vont rester sans réponse. Israël Moutala, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, analyste économique et politique. Il y a près de 6 mois, on a suivi le président des cambistes de Kinshasa qui a affirmé que le dollar s'est changé contre 900 francs congolais. Comment vous expliquez cette dépréciation de la monnaie nationale?
Bon, cette dépréciation s'explique, comme on l'avait dit, par le choc exogène qui est dû à la chute de prix des matières premières, principalement le cuivre, et de manière secondaire le pétrole. Il faut savoir que dans un passé récent, le premier contributeur au budget de l'État, c'était les pétroliers producteurs. À un moment, ils avaient atteint, je crois, 700 à 800 millions de dollars en termes de contributions directes au budget de l'État. Ils ont été maintenant dévancés par les recettes ou les revenus tirés de nouvelles technologies ou des technologies de l'information et de la communication. Mais c'est le secteur minier qui tire l'économie congolaise, principalement avec le cuivre. La tonne de cuivre avait une moyenne de 7 500 dollars dans le cadrage du budget avant sa rectification. Et aujourd'hui, la tonne de cuivre s'échange à moins de 5 000 dollars et là atteint un moment presque 4 000. Et donc, cette baisse du produit phare de nos exportations, que le cuivre, a des répercussions sur toute notre économie en termes de devises, en termes de ressources de l'État, en termes de chiffre d'affaires des entreprises et tous les secteurs, toutes les entreprises qui travaillent directement ou indirectement dans le secteur minier sont impactées par cette baisse de revenus. Donc c'est ce qui explique d'abord l'origine première de cette qui a entraîné la raréfaction justement de la devise, et comme la devise devenant rare, la loi de l'offre et de la demande veut que justement pour une quantité identique de francs congolais et une quantité moindre de devises, la pression est trop forte pour acquérir les devises, et d'où l'emballement ou la surchauffe qu'on peut observer sur le marché de change.
Qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs qui pensent que le cadre macroéconomique tant vanté par le gouvernement ne serait qu'un géant au pied d'argile?
Le cadre macroéconomique, d'abord, il faut s'en féliciter. Il faut se féliciter de la stabilité. Il faut se féliciter du travail abattu par le gouvernement. J'avais dit une fois ici que la stabilité du cadre macroéconomique doit être considérée comme une question d'ordre public économique. Et donc, beaucoup de gens glosaient, s'amusaient à torpiller le cadre macroéconomique. Mais aujourd'hui, maintenant, les gens commencent à comprendre que c'est important d'avoir de la stabilité du cadre macroéconomique. C'est important d'avoir une monnaie stable. Et donc, je ne dirais pas que c'était vraiment un géant au pied d'argile. Mais je pense que le cadre macroéconomique est une réalité, mais une réalité, un acquis fragile qu'il faut consolider. Et cette consolidation doit passer par une rigueur en termes de politique monétaire et une rigueur en termes de politique budgétaire. En termes de politique budgétaire, la loi rectificative de finances va dans le bon sens. En réduisant le train de vie de l'État pour 30%, nous allons dans le bon sens d'avoir une politique budgétaire pour ne dépenser que dans la mesure de nos moyens, pour dépenser sur basse caisse, pour réduire le train de vie de l'État. C'est une bonne chose. Mais j'aimerais dire aussi aujourd'hui que tout ce qu'on voit sur le marché, la surchauffe, le gouvernement n'a pas encore perdu la main. Parce que le budget actuel avait été, il y a un cadrage, le taux d'inflation était de 4,2 ou donc 4,3 à peu près. Donc on était autour de 4%. Ça veut dire que le gouvernement avait tablé pour lui, en termes de prévision, il avait dit que de 92 ou de 93, on serait à la fin de l'année autour de 97 ou 98. Voilà à peu près, c'était prévisible. Aujourd'hui, nous sommes à 1000, donc
ce n'est pas encore la fatalité, d'après vous.
Ce n'est pas encore la fatalité, donc c'est juste qu'on n'a même pas encore atteint 10% de dépréciation du franc congolais. Et donc, et même là, ça veut dire que la situation n'a pas encore dérapé. Pour affoler. Je rappelle ici un chiffre que en 94, le taux d'inflation avait atteint 10 000%. Et donc aujourd'hui, on est loin de ce tableau des années 90. Et donc aujourd'hui, il y a dépréciation du franc congolais. Mais par rapport au cadrage, je crois que rien n'est encore affolant.
Michel Soumoué, vous êtes économiste et expert indépendant. Ce n'est pas la fatalité pour affoler la population. Rien n'est encore affolant, dit Israël Moutala. Quelle est votre analyse à vous?
Voilà. Allô?
Michel Soumoué?
Oui, je suis là.
Voilà. Pour vous, à quoi peut-on attribuer cette dépréciation du franc congolais? Vous avez suivi Israël Moutala dire qu'on n'avait pas encore atteint la limite de la fatalité.
Non, d'abord, je voudrais féliciter M. Israël Moutala pour sa bonne mémoire en ce qui concerne la théorie pure de l'économie, en ce qui concerne les statistiques. Mais le pragmatisme économique est trop loin de ce qu'il a en train de s'imaginer. Il faut d'abord dire, dès le départ, que lorsque M. Israël Moutala dit que la dégringolade actuelle du franc congolais sur le marché soi-disant d'échange est une conséquence de la baisse des cours des matières premières sur le marché international, je crois que là c'est de la pure théorie spéculative. le dollar américain, le franc congolais ne peut être touché par cette baisse dans la mesure où, primo, nous ne participons pas au marché d'échange international. Le franc congolais n'est pas une monnaie convertible. C'est la première des choses qu'il faut reconnaître. Le marché, le franc, aucun produit de congolais n'est vendu à l'extérieur au franc congolais et le franc congolais ne fait partie de devise qui joue sur le jeu du marché international. C'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais dire à M. Israël Moutala, que quand bien même nous encaissons une baisse des devises, une baisse des recettes de nos exportations, il faut encore qu'ils sachent que le même gouvernement et la même Banque centrale du Congo nous font savoir tous les jours que nous avons une enveloppe qu'on appelle des réserves de change disponibles pour ne pas sombrer dans une dégringolade lorsqu'il y a une certaine, je peux dire, une certaine fluctuation sur nos recettes, sur notre enveloppe, sur nos recettes d'exportation. Nous avons encore plus d'un milliard et demi, d'après les statistiques officielles, des devises étrangères qui peuvent contenir suffisamment bien la dépréciation d'une monnaie en cas d'une chute brutale. Donc, sinon, à quoi ça sert d'avoir une enveloppe de DM à les devises disponibles qu'on appelle des réserves de change? Ça, c'est une deuxième observation. La troisième observation, c'est que lorsque M. Israël Moutala dit que nous avons atteint en 1994 un taux d'inflation de 10 000%, je voudrais l'aider en lui disant le vrai chiffre, c'était 9 756% de taux affiché à la Banque centrale comme étant le taux d'inflation de 1994. Il oublie que ce n'était pas une inflation normale, c'était un réajustement des prix lié à une erreur technique de côté de la Banque centrale dans la production, dans sa réforme monétaire de 1993. Parce qu'à ce moment-là, il se souviendra bien que le franc congolais ou la Banque centrale avait sorti le nouveau Zaïre sans sortir de sous-multiples du nouveau Zaïre. C'était un problème, il fallait réajuster tous les prix et ça entraînait des spéculations même qui pouvaient aller parfois jusqu'au-delà de 6 000%. Même au-delà de 600 000%, il faut me le dire. Donc il ne faut pas comparer les choses, partir appeler inflation un simple réajustement des prix lié à une erreur technique de la politique monétaire avec une inflation telle que l'économie le reconnaît. Ça, c'est pour essayer de ramener le débat sur le pragmatisme. Bon, maintenant, quant à ce qui concerne la baisse actuelle, à quoi faut-il l'attribuer? Alain, j'ai écrit des livres, j'ai publié des articles, j'ai fait des conférences, et j'ai dit depuis tout le temps que le franc congolais ne doit un peu de ce que nous appelons sa stabilité qu'au fait qu'il a trouvé un refuge dans le costume du dollar américain. Le franc congolais n'est pas une monnaie en elle-même qui puisse tenir les trois fonctions et les trois propriétés de la monnaie. C'est déjà connu. Et quand bien même on peut se féliciter d'avoir eu une monnaie stable de 92, depuis 2016 ou 2015, mais il ne faut pas qu'on oublie un autre fait. Quel gouvernement, quel citoyen responsable peut se réjouir d'avoir un franc congolais qui est égal à 0,00 dollars, un franc congolais qui ne peut acheter aucun dollar sur le marché, aucun. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque la réforme monétaire a été lancée le 30 juin 1998, créant le franc congolais, nous étions pratiquement à la parité, presque à la parité de 1 dollar américain pour 1 franc congolais. Aujourd'hui, 1 dollar américain valant même 920, nous oublions la dépression d'aujourd'hui, même 920, ça signifie à la cotation au certain que 1 franc congolais est égal à 0,000 dollars américains.
Michel Sommer.
Quel pays sérieux, quel citoyen sérieux peut se réjouir d'avoir la stabilité d'un bien qui vaut zéro, qui n'a aucune valeur intrinsèque?
Michel Sommer.
Ce sont des choses qu'il faut qu'on se dise. Allô?
Oui, Michel Somoué, est-ce qu'à ce stade, on peut déjà parler, par exemple, comme le pensent certains experts, de l'échec de la dédollarisation de l'économie congolaise et également, est-ce que la solidité, le cadre macroéconomique, sa stabilité n'était qu'une solidité éphémère?
Non, c'est du vent, que, comme je l'ai écrit sur ma page Facebook il y a à peu près un mois et demi, quand le gouvernement s'a raconté à qui voulait l'entendre qu'il a toute la situation sous contrôle. Moi, j'ai écrit que le gouvernement trompait, que la Banque Centrale aussi trompait, qu'il n'y avait rien sous contrôle. Absolument rien. Il contrôle rien, même pas la monnaie, il n'y a pas de politique monétaire. La vraie raison pour laquelle le franc congolais, aujourd'hui, entre guillemets, se déprécie, ouais, je mets les mots entre guillemets parce que je doute même de l'existence d'une monnaie. Le franc congolais, c'est ce qu'on appelle en économie du néant habillé en monnaie. Parce que c'est un bien qui n'a, ou un actif, pour dire soyons plus gentils, c'est un actif qui ne remplit aucune propriété monétaire et qui n'assume donc pas des fonctions monétaires. Et l'actif qui assume des fonctions monétaires, c'est le dollar américain. Et le franc congolais n'est qu'une monnaie d'appoint par rapport au dollar américain. Donc ça, il faut pas qu'on perde ça de vue. Maintenant, la dédollarisation. Mais la dédollarisation, Alain, ce n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement. Parce que la loi qui a consacré la dédollarisation, c'est-à-dire la dollarisation, la loi 004 du 31 janvier 2001, elle est encore intacte et n'a jamais été contestée ni par le Parlement, ni par la Banque Centrale, ni par le gouvernement. La loi, elle est là. Elle consacre la dollarisation. Quand on dit dédollarisation, c'est une simple, je peux dire, un slogan qu'on lance pour distraire l'opinion, parce que tout le monde sait très bien que même si on venait aujourd'hui à dédollariser, la Banque Centrale du Congo ne sera pas capable de donner à l'économie nationale les moyens dont elle a besoin en franc congolais.
Merci,
pour
Michel
que
Soumou.
Le marché intérieur fonctionne.
Merci Michel Soumou, et je vous redonne la parole tout à l'heure. Jean Bosco Pouna, vous êtes secrétaire général du syndicat national des écoles conventionnées catholiques. Au-delà des grandes théories économiques, c'est quelle est la situation du fonctionnaire dans ce contexte?
Oui, merci beaucoup Alain. Je crois que nous avons véritablement suivi des théories. C'est très bien parce que ce sont des théories qui nous montrent le chemin. Mais lorsqu'il faut parler de la situation sociale de l'agent de l'État, c'est lui qui doit à la fin du mois toucher un salaire par rapport à cette dépréciation. Il faut dire que le fonctionnaire ou l'enseignant, il est aujourd'hui dans une situation chaotique, catastrophique. Mais avant de pouvoir peut-être donner des éléments qui prouve effectivement que l'enseignant maintenant ne peut plus véritablement mener une vie. Déjà, il était son salaire était très précaire. Je voudrais ici faire un petit constat de la politique de rémunération de notre pays. Il faut déjà dire, Alain, que l'État congolais emploie environ 1 million d'agents et fonctionnaires de l'État, toutes catégories confondues. Nous disons bien environ 1 million, parce qu'aucun ministre de la fonction publique n'a été capable de maîtriser les effectifs jusqu'à ce jour. Un deuxième constat, c'est que le salaire qui est payé représente environ 47% du budget de l'État, avec une part belle aux politiques. Donc vous allez comprendre, dans les 47%, les 100%, il y a presque 90% que les politiques raflent. Vous avez un autre constat, c'est la politique salariale qui est inexistante depuis 1960. On note un foisonnement des textes qui définit souvent de manière hasardeuse les droits salariaux, mais véritablement une politique salariale qui donne ce que doit avoir un agent de l'État, ça n'existe pas. Et puis, finalement, il y a un très faible niveau de rémunération et une dilution des salaires de base au profit des systèmes de primes. Ça fait que l'enseignant, l'agent de l'État vit dans cet environnement-là et lorsque nous sommes devant cette dépréciation, il faut comprendre que l'agent de l'État est en difficulté. Mais alors, depuis 2007, eh bien, nous avons négocié avec le gouvernement un salaire. Ce salaire était indexé, l'économie est dollarisée, c'est vrai, à 100 dollars. Et à l'époque, les 100 dollars représentaient 52 000 francs. Et au fur et à mesure qu'on avançait, les 100 dollars avaient atteint les 92 000 francs, donc 92 000 francs. Mais alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que l'enseignant doit payer les loyers. Mais les coûts varient de 100 à 200 dollars parce que l'enseignant n'est jamais bailleur. Alors, celui qui avait 92 000 francs qu'il pouvait convertir aux 100 dollars, mais aujourd'hui, il ne peut plus. Donc, lorsqu'il a les 90 000 francs qu'il touche, il n'est pas capable de pouvoir payer le loyer. Il doit devoir les compléter. Donc, je crois, vu seulement sous cet angle-là, les enseignants qui sont déjà des personnes vulnérables par rapport à leur situation de vie, eh bien, ça ne vient qu'aggraver notre situation, et je pense qu'il faut que l'État puisse revoir cette politique, parce que sinon ça sera catastrophique.
Mais vous avez suivi la Troïka stratégique qui vous rassure que tous les indicateurs sont sous contrôle. Ça ne vous suffit pas?
Bon, non, ça ne nous suffit pas. Déjà, vous remarquez que celui qui a la charge publique que vous avez invité, qui devrait venir nous parler de cette politique, bon, n'a pas daigné respecter vos auditeurs. Ça nous met dans une situation vraiment difficile. Nous disons, nous, que ça, c'est une manière peut-être de se justifier. Mais sur le marché, nous constatons. Parce que quand vous prenez le panier de la ménagère, vous prenez le loyer, vous prenez les transports, vous mettez tout ça ensemble, mais ça avoisine plus ou moins 300 dollars. Ça, c'est vraiment le minimum. Mais où est-ce que l'enseignant, où est-ce que l'agent de l'État va devoir toucher, avoir cet argent? Parce que le salaire varie de 100 000 à 110 000 francs congolais. Donc, vous comprenez déjà, lorsque vous allez chez les cambistes et que vous devrez avoir le dollar vous devrez avoir 100 dollars à 110 000 francs, je ne sais pas si c'est cela exactement la parité, vous comprenez que l'enseignant, l'agent de l'État, n'est plus capable. Il doit chercher d'autres moyens pour compléter un peu de francs congolais, afin de pouvoir faire face au loyer, au coût du panier de la ménagère, etc. Donc ça a un impact. Bon, nous ne savons pas trop comment la Troïka peut nous dire ça, mais déjà sur le marché, nous constatons qu'il y a presque une perte de plus ou moins 10% déjà de notre pouvoir d'achat.
Voilà, Israël Moutala, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Alain Bolodjoa depuis Kinshasa. Il faudrait reconnaître que la structure économique nationale est fortement secouée par le déséquilibre de marchés mondiaux. En sus de cette réalité dramatique, nous ne devons cependant pas perdre de vue que certains choix contradictoires ont été opérés par les décideurs, notamment les recours à l'open market, mécanisme d'adjudication consistant à racheter la monnaie fiduciaire locale qui est le franc congolais dans le but de juguler la crise. En même temps, la récapitalisation de la BIAC en franc congolais, situation qui a pratiquement épongé les résultats de la première opération. À cela s'ajoutent également les déficits observés dans la régulation du marché monétaire. Les décideurs doivent éviter que cette situation dégénère au risque d'altérer davantage le critère confiance de francs congolais et mettant ainsi en mal l'équilibre macroéconomique.
Israël Moutala, quand Alain Bolodjoa fait allusion à certains choix contradictoires opérés par les décideurs, n'a-t-il pas raison?
Son intervention est pertinente à certains égards, mais quels sont ces choix contradictoires dont il est question? Il y a eu un problème justement à un moment donné entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Les deux doivent être complémentaires, mais à un moment, les deux n'étaient pas complémentaires, ils étaient parfois antinomiques. Mais l'émission d'aujourd'hui a un caractère aussi pédagogique. Je ne vais pas entrer dans la théorie pure de l'économie avec Monsieur Michel Sommeux, qui est un monétariste, qui est un ancien de la Banque centrale. Mais je dis tout simplement ceci. On ne va pas faire le procès aujourd'hui du franc congolais, savoir qu'il n'est pas convertible, qu'il n'est pas plus les trois fonctionnements. Là n'était pas le débat. Parce que le même franc congolais, il y a un moment, il était stable, le dollar était à 92 pendant de longs mois, pendant de longues années. Aujourd'hui, pour un dollar, nous sommes autour de 1000 dollars. Pourquoi ça? La raison, encore une fois, elle est d'ordre, elle est d'origine exogène. Étrangère, ça veut dire que c'est la chute brutale, sévère et continue de cours de cuivre, de cours de matières premières en général et de cours de cuivre qui a raréfié l'offre de devises. Et donc, l'offre de devises ayant chuté pendant que la même demande de devises est restée constante ou est allée un peu croissante. Et donc, qu'est-ce que peut faire un gouvernement par rapport à ça? C'est d'agir justement sur le paramètre qu'il peut contrôler. Parce que l'offre de devises, le gouvernement ne peut pas contrôler. Le gouvernement ne peut pas décréter que le prix du cuivre puisse quitter de 4000 et atteindre à 10 000 ou voilà. Non, il peut pas justement, il n'a pas les armes pour essayer de se battre sur ce front-là. Alors le gouvernement, il fait quoi? Il va jouer sur la demande de devises. Et pour jouer sur la demande de devises, il faut une une politique budgétaire restrictive. Donc vous diminuez vos dépenses, vous ne tolérez pas les déficits budgétaires. Mais il faut aussi une politique monétaire conséquente, en faisant en sorte que les crédits à l'économie octroyés par les banques, par exemple, soient plus chers en termes de francs congolais. Vous faites en sorte que l'offre de francs congolais puisse correspondre justement à l'offre de devises disponible. Nous importons pour les produits agricoles à peu près plus de 1,5 milliard de dollars. Et donc, les 1,5 milliard de dollars, doivent provenir quelque part. Parce que pour acheter ces produits vivriers, on doit justement avoir des devises. Et ces devises doivent provenir de nos exportations. Si les exportations baissent, justement, on a moins de devises, mais on a toujours beaucoup de masse monétaire en termes de francs congolais. Or, beaucoup d'études ont démontré justement que quand on déverse 100% de francs congolais dans l'économie, à peu près 70% se dirige vers l'acquisition de la devise pour des raisons diverses. Raisons de placement, raisons d'épargne, raisons d'exportation. Bref. Alors.
Mais Israël, vous avez suivi, Jean Bosco Pouna égrené pratiquement les différentes étapes du chemin de la croix du fonctionnaire congolais dont la situation, selon lui, n'est pas prête de s'améliorer.
Non, Jean Bosco Pouna a parfaitement raison. Je suis solidaire des enseignants, je suis solidaire des gagnants. Petit, le pouvoir d'achat, c'est quelque chose de sacré. Pour les gens qui gagnent moins, il faut absolument préserver le pouvoir d'achat. Mais voilà pourquoi, justement, encore une fois, il faut que les gens prennent au sérieux quand on dit qu'il faut préserver les acquis de la stabilité du cadre macroéconomique. Donc, aujourd'hui, justement, les enseignants ont perdu du pouvoir d'achat. Mais je relativise encore une fois, parce que je dis ceci, quand on parle d'inflation, l'inflation c'est une hausse généralisée de biens et services. Merci. Ça veut dire que vous avez vu par exemple que le prix du ciment aujourd'hui n'est pas aussi élevé. Ça veut dire que il faut faire maintenant un paquet de produits de première nécessité et voir à peu près s'il y a des produits qui ont baissé et ceux qui ont...
Ça veut dire faire des réajustements.
Faire des réajustements. Merci. Et avoir et dégager maintenant qu'est-ce qu'on a perdu réellement en termes de pouvoir d'achat.
Michel Somo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
C'est l'ingénieur bien fait depuis Bukavu. Cette situation était très prévisible au regard de l'évolution économique dans notre pays. Nous importons presque ou tout et l'État n'encourage les PME et PMI que dans les lois et documents mais rien sur terrain. La monnaie nationale est échangée comme une devise extérieure quand il s'agit d'une coupure de 5, 10, ou pire encore, 20 000 francs congolais. Il faut tout simplement dire que c'est la responsabilité du gouvernement, comme on ne cesse jamais de le dire.
Michel Somoy, j'ajoute cette réaction du professeur Ignace Ndala de Kolwezi, dans la province de Lualaba, qui dit « Je pense que cette situation nous suivra partout, tant que les mesures d'encadrement de notre monnaie face à la devise américaine ne sont pas surveillées. Jamais l'on ne parle en termes de prévision à ce propos, nous sommes toujours dévancés par les événements. »
C'est passé. Je crois qu'ils ont tout dit. D'abord, l'intervenant de Bukavu, ce qu'il vient de dire, ça se traduit en termes monétaires, en un principe simple. Le franc congolais n'est pas une monnaie liquide. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si ce n'est pas un actif liquide, donc c'est pas une monnaie. Ça, c'est clair. Ça nous suivra partout. C'était prévisible. C'est une réalité parce que nous n'avons jamais eu une politique monétaire responsable. Ça, il faut le dire. Même si Israël Ndala, dont j'apprécie beaucoup la générosité quand il embrasse les mesures que prend le gouvernement, il est très généreux avec le gouvernement, mais il doit être généreux avec la population, avec l'économie nationale, et reconnaître qu'il n'y a rien, il n'y a que du bluff là-dedans. Écoutez, lorsque vous parlez, par exemple, du cadre macroéconomique, je ne voudrais pas m'éterniser sur le cadre macroéconomique. Mais si le cadre macroéconomique signifie que vous disposiez d'un système d'interaction, d'interrelation entre les variables, lorsque déjà vous me dites en même temps que la baisse du franc congolais n'a pas entraîné une baisse du prix du ciment ou une hausse du prix du ciment, ça signifie qu'il n'y a pas d'interrelation. Donc arrêtez de parler du cadre macroéconomique parce que le cadre macroéconomique signifie que lorsque vous bougez une variable, l'autre variable suit automatiquement. Ça, c'est quelque chose qui doit être très clair. Mais la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre depuis 2002, 2003, 2004, ça s'appelle en économie monétaire de la surévaluation pure et simple du franc congolais. Le franc congolais n'a jamais affiché sa véritable valeur sur ce qu'on devrait appeler le marché. On entretient artificiellement un taux d'échange qui est faux, qui traduit une fausse monnaie, simplement parce que on voudrait donner l'image à l'extérieur qu'à l'intérieur nous avons stabilisé les choses. Et ça c'est absolument faux, à la limite même cynique. Cynique parce que les fonctionnaires, comme a dit M. Pouna, en payent le prix le plus fort, pas seulement les fonctionnaires. Mais même les petits commerçants congolais. Parce que maintenant, comment allez-vous, vous petits commerçants congolais, vous permettre de vendre au prix réel votre marchandise lorsque les acheteurs sont privés de leur monnaie? Ce que le gouvernement applique dans notre pays pour entretenir ce faux taux d'échange, c'est ce qu'on appelle en économie la politique de répression financière, la politique de répression de la demande. On ne doit pas augmenter les salaires, on ne doit pas donner aux fonctionnaires et aux travailleurs les salaires qu'ils méritent, il faut les tromper avec des pourboires sous forme de salaire. On ne doit pas permettre à l'État de vivre à la hauteur des besoins de la construction de l'économie nationale. On entretient un État congolais et les citoyens congolais dans une pauvreté, dans une précarité inacceptable. Seulement parce qu'on veut vendre à l'extérieur l'image qu'à l'intérieur c'est stable. Alors faut monter les banques mondiales, apporter-nous des aides, apporter-nous des dons parce que nous avons stabilisé. Mais on ne dit pas qu'on est en train de tuer et l'État et le citoyen congolais. Voilà la réalité qui se passe dans ce pays-là.
Merci Michel Nsomoué. Jean Bosco Pouna, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
C'est Donatien Bonigaba Bangamwabo depuis Goma au Nord Kivu. Non seulement à Kinshasa où les francs congolais se trouvent en inflation, mais même ici dans notre province, c'est le même cas. Nous craignons justement car déjà les conséquences négatives commencent à être visibles sur les marchés et dans certaines boutiques où les prix de quelques biens de services commencent à augmenter. Le problème est que le petit salaire que les fonctionnaires de l'État touchaient ne sera même pas revu à la hausse à la vue de cette situation, ce qui leur rendra la vie chère en ce moment.
J'ajoute cette réaction Jean Bosco Pouna d'Alex Eko de Chikapa qui dit « Quel crédit pouvons-nous accorder aux allégations de la Troïka stratégique qui dit « Maîtriser la situation malgré cette dégringolade, est-ce une déclaration visant uniquement à empêcher une panique généralisée du marché ?»
Oui, merci beaucoup Alain et merci à l'auditeur de tout à l'heure. Ce qu'il faut dire, sa réaction me permet de relancer le débat sur la bancarisation. Dans l'une de ses missions, c'était que permettre à récupérer les économies qu'on aurait glanées à gauche à droite et améliorer l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État, l'enveloppe salariale des enseignants. Donc, à ce jour, cette mission n'a pas été au rendez-vous parce que aujourd'hui, eh bien, le salaire des fonctionnaires est resté là. C'est indexé à 100$ et ça s'arrête là. Ça fait des années. Et je pense que lorsque notre auditeur dit que cela touche même leur province, mais en fait, c'est la République démocratique du Congo qui sera touchée. Tous les salariés seront touchés si l'État ne prend pas de mesures pour pouvoir encadrer cela. La conséquence ici, c'est bien sûr la perte du pouvoir d'achat, mais la grande conséquence pour nous travailleurs, nous enseignants, c'est la démotivation au travail. Vous comprenez? Donc, ces enseignants qui vont devoir aller en vacances vont déjà dans cette situation de précarité, vous comprenez? Donc, pendant les vacances, ils ne seront pas productifs, parce qu'en réalité, c'est pendant les vacances qu'on doit se revitaliser pour commencer une année scolaire prochaine, avec beaucoup de tonus. Mais, avec cette situation, laissez-moi vous dire que les enseignants vont vivre un véritable calvaire, et même les agents et fonctionnaires de l'État.
Donc psychologiquement atteints.
Ils sont psychologiquement atteints, et donc je ne sais pas pendant les vacances comment ils vont devoir faire face au coût de la vie.
Alors il y a Fikiri Chumba de Goma qui dit « Je pense qu'on devrait s'attendre au pire, d'où la Troïka doit mettre les garde-fous pour équilibrer les prix du marché au lieu de minimiser un problème réel et personne n'ignore que le prix du baril sur le marché mondial est en baisse, mais sans que le carburant ne soit revu à la baisse en RDC, le gouvernement devrait plutôt veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage sur le marché au lieu de se limiter à dire que la situation est sous contrôle, mais dans les faits que nous puissions vivre le contraire. » fonctionnaire. Est-ce que le fonctionnaire craindrait-il le pire, comme dit Fikiré?
Oui, mais bien sûr. Mais vous savez, les promesses du gouvernement, c'est pas la toute première que l'on fait. Nous pensons que la Troïka stratégie est en train de prêcher sa chapelle. Mais au niveau des retombées, nous nous rendons effectivement compte que nous sommes touchés. On est déjà touchés depuis. Mais lorsque nous assistons à ce genre de guerre, de bataille, à cette dépréciation, bien, c'est la perte vertigineuse du pouvoir d'achat. Ça, c'est clair au niveau pratique dans notre vécu quotidien. Nous sommes en train déjà de vivre cela et je crois que le gouvernement, en lieu et place de pouvoir continuer à prôner, à faire des discours, nous avons eu beaucoup de discours qui n'ont jamais amélioré notre situation salariale. Nous pensons maintenant qu'il faut prendre des mesures d'encadrement, elles s'imposent pour que finalement nous puissions peut-être ne pas descendre aux enfers.
Respirer tant soit peu.
Oui, respirer tant soit peu.
Et pour vous, ces mesures d'encadrement passeraient par quoi, par exemple?
Bon, les mesures d'encadrement, je crois que ici, on est en train de décrire une situation générale, vous comprenez. Mais lorsque je prends simplement le budget de l'État, et que dans ce budget-là, la part qui est réservée aux fonctionnaires de l'État, c'est une part véritablement modique, il faut, compte non tenu de tout ce qui a été évoqué comme situation de fluctuation au niveau des matières premières, de minerais, etc. Il faut dans le budget de l'État qu'on puisse privilégier, qu'on puisse mettre quand même les fonctionnaires, les placer à une place vraiment qui correspond au travail qu'ils rendent. Parce que tel que nous vivons aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ce soit les parlements, que ce soit au niveau du gouvernement, l'enseignant, le fonctionnaire, il est vraiment logé à la 41 boutonnière et c'est les laisser pour compte, mais c'est malheureux.
Voilà, je rappelle que nous devions avoir dans cette émission M. Jean-Louis Kayembe Wakayembe, directeur général de la Banque Centrale en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires. Malheureusement, il s'est désisté en dernière minute. Et comme je le disais, il y a beaucoup de réactions qui lui ont été adressées, mais qui vont rester sans réponse. Israël Moutala, il y a Kilikumbi Lusumba Sumba qui dit « La Troïka minimise la situation alors que le comité de politique monétaire de la Banque Centrale a rabaissé la prévision de croissance économique 2016 de 6 à 5%. Qui dit mieux ou à qui croire, voilà une preuve de démagogie qui caractérise les dirigeants actuels qui cherchent à faire croire aux Congolais que le pays est bien géré alors qu'il va mal. Quelle infamie, dit-il.
Non, je pense qu'il a des mots trop forts. Il ne s'agit pas de démagogie. Les taux de croissance sont revus, même dans les pays où la bonne gouvernance n'est pas à mettre en doute.
Et reste tout à fait théorique parce que pas perçu dans les faits.
Non, ça veut dire qu'on peut voir, on peut avoir des prévisions. Ça veut dire que les prévisions, elles s'affinent. Ça veut dire que quand vous avez des chutes brutales comme on l'a cette année de matières premières, de manière comme conséquence immédiate, on doit revoir le taux de croissance. Et donc il y a des paramètres qui permettent justement d'ajuster le taux de croissance économique. La croissance était essentiellement tirée, quand on visait une croissance à deux chiffres, elle était essentiellement tirée par le secteur minier. Or, le secteur minier a un coup de frein. Il va de soi que la croissance soit arrivée à la baisse. Donc il ne s'agit pas de démagogie. Même les chiffres de la Banque Centrale peuvent différer du chiffre de la primature, mais tout ça, c'est des discussions techniques pour voir sur quel paramètre s'appuyer.
Alors, Israël, parmi les solutions, vous avez notamment préconisé la mise en l'application d'une politique restrictive. On sait par exemple que dans le cas de la RDC, le budget 2016 a été revu à la baisse. Alors, pour le fonctionnaire, il est complètement étranglé.
Non, ça veut dire que le budget n'a pas été revu à la baisse en termes de salaire. Parce que je crois que le gouvernement a quand même l'intelligence de ne pas toucher aux salaires. Les salaires, ce sont des droits acquis. Et il fallait faire en sorte aussi que cette période de vache maigre que nous entamions en serrant la ceinture ne puisse pas tuer la croissance économique. Il ne faut pas que les mesures de restriction budgétaire puissent tuer la croissance. Parce que quand vous tuez la croissance, vous tuez justement les futurs revenus qui vont vous servir à à mieux collecter l'impôt et à financer l'État. Et donc, aujourd'hui, les moyens de l'État étaient extrêmement limités. J'ai dit qu'il y a deux volets. Vous avez l'offre de devises qui a chuté, et donc le seul levier sur lequel il faut agir, c'est le levier de la demande. Et donc, pour encore entrer un peu en contradiction avec mon aîné Michel Somouin, je dis ici, même le procès, on ne va pas le faire au franc congolais. Mais la devise ici, la devise américaine, on l'acquiert avec quoi? C'est avec le franc congolais. Ça veut dire quand, même dans les reportages que vous avez fait passer ici de Daniel Tambinzoni, c'était des Congolais qui ont des francs congolais qui veulent acheter de la devise. Et c'est ce qui accroît justement cette pression. Et je reviens encore sur le chiffre. Donc sur les réserves d'échange, là on pouvait agir sur l'offre de devise, mais c'est limité. On n'a pas un milliard et demi. Merci. C'est moins de 1 million, c'est moins de 1 milliard 200 millions. C'est parce que justement il y a eu plusieurs interventions. J'aimerais terminer par là. De la Banque centrale, elle est intervenue deux fois en jouant sur l'offre de la devise. Mais ses moyens en devise sont limités, il ne peut pas aller sur ce levier-là. Et donc, le problème, c'est d'avoir des mesures structurelles, pas conjoncturelles, pour essayer de faire baisser la demande de devise.
Merci. Michel Somouin, faudrait-il, en fin de compte, s'attendre au pire ou il faudrait espérer, si oui, à quelles conditions?
Le pire, Alain, nos pieds ont déjà touché le fond de la mer. La situation dans laquelle le citoyen congolais vit par rapport au reste du monde, elle est catastrophique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Là, je suis en train de parler avec vous à partir des États-Unis d'Amérique. Je suis en train de voir comment le salaire se comporte aux États-Unis d'Amérique. J'ai fait l'Inde aussi. J'ai fait aussi des pays en développement, autres qu'en Asie, j'étais là. Mais je suis en train de vous dire que ce que nous vivons au Congo comme situation économique est inacceptable. C'est pour ça que j'ai salué tout à l'heure l'extrême générosité de mon jeune frère Israël Moutala. Ça m'impressionne qu'il ait une telle générosité par rapport à une population qui est en train de mourir en réalité. Une population sans salaire, sans revenus, sans pouvoir d'achat, et qu'il aille jusqu'à proposer qu'il y ait encore des mesures plus restrictives que celles que nous vivons aujourd'hui, ça signifie que ce monsieur est en train de conseiller le suicide collectif à une économie qui est déjà morte. C'est ça la réalité. Non, écoutez, s'attendre au pire, je ne sais pas si c'est encore pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas si un cadavre peut mourir deux fois. Moi, j'ai l'impression qu'on nous a déjà amenés au plus bas du niveau de l'existence humaine. Je crois que tout ce qu'il y a à faire, il faut simplement inviter le gouvernement à remettre en place ce qu'il ne veut pas mettre en place. Parce que si Jean-Marie, Kayembe n'est pas venu de la Banque centrale, c'est pas qu'il a fui le débat, je le connais. C'est parce qu'il ne veut pas dire là, il ne veut pas mentir. Il sait que la situation que nous vivons est désagréable. Il sait que la réalité de la politique monétaire, elle est absente.
Et en guise de conclusion, Michel Somouin.
Mais il ne va pas venir le dire publiquement parce qu'il va risquer son poste.
En guise de conclusion.
Radio Capi, il faut comprendre que les gens vous fuient parfois parce qu'ils préservent leur poste, mais pas du tout la vérité.
Alors pour conclure, Michel Somouin, un mot pour conclure.
Il faut donner à l'économie congolaise une politique monétaire d'abord. Parce qu'elle n'existe pas. La politique monétaire signifie la gestion d'une monnaie, de cet actif-là qu'on appelle monnaie, pour que cet actif puisse avoir d'abord des propriétés de liquidité, de convertibilité et de stabilité enfin, et que de telle sorte qu'on puisse enfin assumer les fonctions d'unité de compte en premier. Pas le dollar, mais le franc congolais.
Merci.
Doit être l'unité, la référence des prix. Ça doit être le franc congolais. C'est seulement avec une politique monétaire viable, avec un franc congolais assumant les trois propriétés, les trois fonctions, que nous allons avoir une économie nationale capable de fonctionner.
Merci.
On parle aujourd'hui d'un conflit entre la politique budgétaire et la politique monétaire, mais souvenez-vous de ce que disait un ancien ministre français, Colbert, pour ne pas le citer. Il dit, donnez-moi de la bonne monnaie et je vous donnerai de bonnes finances. Si vous n'avez pas de monnaie, vous n'attendez pas à avoir une politique financière, à avoir une politique budgétaire quelconque, ce n'est pas possible.
Merci, Michel Somouin.
C'est toujours une chose commençons par le commencement. Le commencement, c'est la monnaie. Et à ce moment-là, nous aurons une économie, nous aurons des finances publiques.
Merci. Jean Bosco Pouna, il y a les décideurs qui vous suivent. Qu'est-ce que vous leur dites?
Oui, ce que nous pouvons leur dire, c'est que nous sommes là en face d'une économie presque grabataire. Eh bien, l'enseignant n'a pas de salaire. Et vous savez que le salaire doit couvrir les dépenses du loyer, des transports, des allocations familiales, des soins de santé, etc. Si nous n'avons pas ce salaire-là, eh bien, nous serons véritablement démotivés pour faire le travail qu'on nous demande. Donc, notre interpellation en direction du gouvernement et en direction du Parlement, c'est qu'on puisse réajuster l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. Parce que ce salaire, depuis 2007, n'a pas changé d'un iota. Si ce réajustement est fait, eh bien, on va redonner espoir aux agents et fonctionnaires de l'État, aux enseignants. Mais si ce n'est pas fait, il faut déjà comprendre que tous les travaux qu'on nous demande ne sera pas fait à bon escient et ce développement qu'on attend ne viendra pas.
Un mot par rapport à la bancarisation.
La bancarisation, nous avons dit, il y a trois missions. Il faut maîtriser les effectifs, le gouvernement a raté. Il faut que l'enseignant puisse toucher la totalité de son salaire. Aujourd'hui, il y a les frais de tenue de compte. Il faut qu'il y ait des économies récupérées. Malheureusement, il n'y en a pas. Et donc, il faut refaire certaines choses dans cette bancarisation.
Merci. Israël Moutala, conclusion.
Conclusion, moi je continue à dire que aujourd'hui nous regrettons la rupture du PEG. Je pense que les personnes qui ont été à la base de la rupture du PEG réfléchissent, voient le mal qu'ils ont causé au pays. Si on était en programme économique formel avec la Banque mondiale, on aurait eu droit justement à des appuis budgétaires qui pourraient, et même à des appuis en matière de choc exogène qui nous auraient soulagé pendant cette période de ce mauvais passe.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir Jean-Louis Kayembe, directeur général de la Banque centrale en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.